Le Grand Dialogue.
Sigikafoba.
Odewani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo Dmondi.
Chienne Berry. Sigikafoba. Le Grand Dialogue.
Protection des enfants en zone de conflit, la situation est-elle alarmante au Mali? Quelles sont les actions réalisées afin de mieux protéger les enfants? Faut-il un dialogue national autour de la promotion de la protection de l'enfance? Autant de questions auxquelles nos invités vont répondre. Ils sont au nombre de trois. Haruna Samake de la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille. Il est le chef de division promotion de l'enfant. Sira Tunkara de l'Organisation de jeunes africains pour le développement et l'émergence, de la promotion de la jeune fille et de l'enfant. Également Kadiatou Ababi de la Profi, de l'Association pour la promotion de la jeune fille déscolarisée au téléphone. Je suis Imran Akilo Meiga, chers invités, auditeurs et téléspectateurs, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Monsieur Haruna Samake de la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille, quelle est la situation concernant la protection de l'enfant en zone de conflit au Mali?
Ok, merci beaucoup pour cette question. Comme vous le savez, la situation au Mali, je peux dire qu'elle n'est cachée à personne, parce que le contexte actuel, comme vous le savez, est marqué par la situation sécuritaire, tant bien au nord, au centre et même au sud. Et il y a aussi ces questions de ces actes de conflits intra ou intercommunautaires. Et comme vous le savez, chaque fois qu'il y a crise, que la crise soit du fait des hommes ou bien à la suite d'une catastrophe naturelle, vous trouverez que les enfants sont toujours les premières victimes. Donc, les enfants sont comptés parmi les premières victimes. Donc, quand vous voyez le contexte actuel du Mali, il y a la crise, il y a les inondations. Donc, tout ceci, effectivement, toutes ces crises font qu'aujourd'hui, les enfants sont parmi les toutes premières victimes. C'est eux, effectivement, qui payent le lourd tribut. Donc, la situation, vous dites alarmante, effectivement, je suis d'accord avec vous pour l'emploi de ces termes-là, parce que même nous, adultes, ne sommes pas à l'aise. Effectivement, la situation est alarmante, puisque nos cibles qui constituent les enfants, effectivement, sont prises, effectivement, à partie. Et c'est eux qui payent effectivement le trouble.
Sira Tunkara de l'Organisation de jeunes panafricains, de jeunes africains pour le développement et l'émergence. Quelle lecture faites-vous de la situation de la protection de l'enfant au Mali?
Merci.
En zone de conflit surtout.
D'accord. Merci de m'avoir donné la parole. Moi, personnellement, étant chargée de la promotion de la jeune fille et de l'enfant de l'Organisation des jeunes africains pour le développement et l'émergence, j'ai fait un constat, un triste constat, on va dire. Vous savez, les conflits armés, que ce soit ici au Mali, que ce soit les conflits mondiaux, on va dire, comme M. Samake l'a dit, les enfants sont les premières victimes. Parce que les enfants sont sur les premières lignes. Donc, les enfants sont pris pour cible. Les groupes armés les prennent pour cible. Déjà, de un, pour faire pression. Parce qu'on sait tous que quand on entend déjà que les enfants ont été attaqués, les enfants ont été cibles, déjà, ça crée, ça crée confusion dans la tête. Les gens sont paniqués. Donc, les gens se disent que si les enfants qui sont l'avenir de demain, qui doivent être protégés, qui doivent être, qui doit être seulement protégé, privilégié, sont pris pour cible. Donc, personne n'est en sécurité. Nous savons tous qu'actuellement, au Mali, les enfants sont, surtout dans le nord, dans le centre, actuellement, avec les conflits armés, les enfants, ils n'ont pas droit à l'éducation, ils n'ont pas droit à la santé, ils n'ont pas droit aux services sociaux de base. Et moi, mon organisation aussi, on essaye comme c'est une organisation de bénévoles, on essaye de mener des actions sur le terrain, de poser des actes en faveur de ces enfants qui sont victimes des conflits armés.
Kadiatou Babi, vous êtes avec nous? Vous êtes de l'association de la promotion de la jeune fille déscolarisée. Alors, le constat, selon Mademoiselle Sira Tunkara, le constat est triste et amer. Est-ce que vous partagez cette analyse?
Oui, bonjour à mes co-débatteurs, bonjour aux auditeurs et merci à Tamani de m'avoir impliqué dans le débat. Effectivement, la situation de la petite protection de l'enfant au Mali en général est bien prise en compte, en fait, parce qu'il y a des politiques, il y a le département, il y a même une direction chargée de l'enfant. Mais vous savez qu'une fois qu'un conflit intervient, bon, les normes standards changent, malheureusement. Et les enfants, en effet, tant que les adultes, n'est-ce pas, sont vraiment victimes de ce conflit que nous vivons depuis 2012, et nous pouvons effectivement dire que les enfants, plus que les adultes, parce que ce sont des enfants, et que leur traumatisme est beaucoup plus grand, parce qu'ils ne comprennent pas souvent les situations qui leur arrivent. Et effectivement, la situation de conflit fait que malheureusement, leurs droits, par exemple, beaucoup de leurs droits, n'est-ce pas, ne sont plus respectés, justement, vu cette situation de conflit. Et les conséquences aussi par rapport, par exemple, au déplacement que cela provoque, et qui fait qu'ils s'éloignent même de leur environnement naturel. Donc, effectivement, le conflit a des conséquences vraiment fâcheuses sur les enfants. Et voilà, Mademoiselle Tunkara a touché à l'éducation, les services sociaux de base en général. Mais vraiment, il faut dire que beaucoup plus que les adultes, ces enfants sont touchés parce que malheureusement, c'est eux qui deviennent des orphelins. C'est eux qui n'ont plus droit à l'éducation. Par exemple, il y a plus de 914 écoles qui sont fermées au Mali depuis le début des conflits. Plus de 100 enfants qui ne vont plus à l'école. Et vous imaginez toutes ces conséquences pour la société en général et pour ces enfants directement. Parce qu'un enfant, s'il ne part pas à l'école, qu'est-ce qu'il fait en réalité? Parce que l'école, c'est vraiment une seconde maison pour l'enfant. C'est le lieu d'apprentissage, c'est le lieu de socialisation. C'est vraiment un espace où l'enfant passe le plus de son temps en réalité, de la manière la plus utile. Alors si l'enfant est privé de cela, vraiment, c'est assez grave. C'est assez grave. Donc, on peut dire effectivement que le conflit a des conséquences assez fâcheuses vraiment sur la situation des enfants. Sans oublier le fait qu'ils sont enrôlés souvent dans cette situation vraiment de force et qu'il y a beaucoup de conséquences. Je suppose qu'on va y arriver vraiment. Mais j'adhère vraiment à leur analyse de la situation. Ils ont parfaitement raison. La situation est assez alarmante.
Alors, Aruna Samake, madame disait tout à l'heure que les enfants sont enrôlés. Est-ce qu'il y a-t-il des enfants enrôlés, des enfants soldats au Mali?
Ah, bien entendu, il y a peut-être l'appellation enfants soldats, nous préférons l'appellation enfants associés aux forces et ou aux groupes armés. Parce que l'enfant soldat, les gens le voient effectivement comme étant celui-là qui porte des armes ou une arme. Alors que l'enfant associé aux forces, aux groupes armés, il peut ne pas être un enfant qui prend pas directement au combat, mais il peut être un enfant qui peut servir d'informateur, qui peut servir même d'autres choses, d'autres travaux ménagers, ou encore qui peut, en tout cas, on peut lui confier d'autres missions qui n'est pas de porter des armes et d'aller tirer. Donc, c'est pourquoi à ce niveau, l'éventail est beaucoup plus large que l'autre appellation enfant-soldat qui est beaucoup plus rétrécie. Donc, effectivement, au Mali, avec la crise, on a connu ce phénomène d'enfants associés aux forces, aux groupes armés. C'était une première. On ne le connaissait pas avant, mais c'est avec la crise qu'on nous a connus.
Est-ce que vous avez un nombre estimatif des enfants enrôlés?
Oui, quand nous prenons, depuis que la crise a commencé, et de 2013 à maintenant, les enfants qui nous ont été remis, quand je dis nous en tant que direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille, les enfants retirés des rangs des groupes armés, de 2013 à maintenant, nous sommes à plus de 100. Plus de 100 enfants. Ça, c'est ceux qui sont passés par nous. Hein. Sans compter qu'il peut y avoir des cas d'auto, des enfants qui s'auto-démobilisent, c'est-à-dire qui décident de se retirer en toi, si les connexions les permettent, et se réunissent avec leur famille. Mais les cas, de façon officielle, qui sont passés par nous et que nous avons procéder à la prise en charge à travers des centres qui sont là pour ça, les CETO, et après, on les réunifie, donc ils sont au nombre de 100 et quelques. Donc, c'est pour dire que c'est une réalité triste qui est là et que les enfants ne méritent pas cela. Donc, en plus de ces enfants associés aux forces, aux groupes armés, il y a d'autres catégories. Elle a touché les enfants qui, vous savez, quand il y a une crise, il y a un mouvement de population. Généralement, c'est le mouvement forcé et massif à la fois. Et au cours de ces mouvements, effectivement, certains enfants perdent contact avec leur famille. Ils deviennent des enfants, ils se retrouvent seuls et ils deviennent des enfants non accompagnés. D'abord séparés de leurs parents, des parents ou de la personne légalement qui a la loi de protéger. Mais aussi, il n'y a aussi aucun membre de la famille, effectivement, qui le protège. Donc, il devient un enfant séparé, non accompagné. On a beaucoup de cas comme ça. Et ça veut dire qu'ils sont en rupture avec leur famille. Et aussi, ces familles, toutes ces familles qui sont repliées vers des zones qu'elles considèrent sûres pour se mettre à l'abri, effectivement, là. Donc, dès que vous changez de cadre de vie, donc, ça a un impact naturel, effectivement, sur votre mental, sur votre façon. Donc, ça crée un choc psychologique. Et là aussi, et la prise en charge de ces cas nécessite aussi, effectivement, une urgence, en tout cas, des actions beaucoup plus appropriées. Donc, lorsque l'enfant, effectivement, se trouve dans cette situation, ça va jouer forcément sur, effectivement, sa santé mentale, intellectuelle, et tout ce qui s'en suit. Et il faut aussi des services, effectivement, appropriés pour prendre en charge cet enfant-là.
Alors, un enfant qui a été préparé psychologiquement à l'utilisation des armes, que faut-il pour sa réintégration dans la société?
Vous savez, le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans sa résolution 16-12, a ciblé 6 violations des droits de l'enfant en temps de conflit. Et l'enrôlement, l'utilisation de ces enfants font partie de ces 6 violations. Ce qui veut dire que c'est un phénomène qui est vraiment fréquent et qui est là. Maintenant, les enfants qui ont été enrôlés, comment faire pour les réintégrer dans la société? Parce que déjà, si des enfants, ils ont été enrôlés, donc dans leurs esprits, ils ont un truc. Ils sont violents, en fait. Donc, avant même de les réinsérer, ils ont besoin d'aide psychologique. Il faut qu'ils soient accompagnés. Que ce qui a été intégré en eux, en leur cerveau, pour qu'ils soient méchants, pour qu'ils soient là seulement violents. Il y en a même des enfants qui violent des gens, des enfants qui tuent, des enfants qui font du trafic, des enfants qui font du n'importe quoi, en fait. Donc, maintenant, il faut d'abord que ces enfants soient accompagnés. Accompagnés de telle sorte qu'ils puissent vraiment être éduqués à ne plus être violents, à ne plus commettre des actes atroces, que ce soit à l'encontre d'autres enfants, que ce soit à l'encontre des adultes. Donc, il faut d'abord qu'ils soient accompagnés, qu'ils soient suivis par des professionnels psychologiquement, ensuite qui suivent le processus de DDR, en fait. Parce que tant ça existe avec les adultes, tant ça existe avec les enfants.
Madame Kadiatou Babi, vous êtes avec nous?
Oui, je vous entends.
Alors, en dehors des déclarations et des dénonciations, quelles sont les dispositions prises pour désarmer les enfants qui prennent les armes?
Je suppose que madame vient de le dire, ça c'est pris en charge par le programme d'IDR. Donc, au niveau du ministère de la Réconciliation, n'est-ce pas? Mais nous, en tant qu'organisation, moi, en tant qu'organisation, en tout cas de la société civile, nous travaillons beaucoup sur les aspects de sensibilisation au niveau des communautés, sur les aspects du travail avec les jeunes pour qu'ils soient réinsérés dans la vie sociale et économique et pour également leur donner des compétences de vie, c'est-à-dire d'autres informations utiles de la vie, c'est-à-dire les notions de paix et de réconciliation sociale. Par exemple, avec l'UNESCO, depuis pratiquement une année, nous avons un programme qui est dénommé les jeunes acteurs pour la paix et la réconciliation nationale. Dans le cadre de ce programme, par exemple, nous faisons beaucoup d'informations avec les équipes régionales d'appui à la réconciliation nationale au niveau de la région du Sévou. Nous avons un autre collègue ASG, Association Souaïgou, qui est au niveau du Mopti, qui fait le même travail au niveau du centre. Et nous sommes au niveau du Sévou. Nous travaillons avec les jeunes, nous travaillons avec les femmes, nous travaillons avec les communes pour que vraiment ces histoires, cette question, n'est-ce pas, de paix, de réconciliation nationale, n'est-ce pas, soit réellement effective au niveau de ces communautés. Voilà que... les actions concrètes que nous menons. Mais effectivement, il y a le DDR qui est là, le programme DDR qui est là, n'est-ce pas, qui prend en charge d'une manière beaucoup plus globale, n'est-ce pas, toute cette question du jeune enfant à réintégrer, n'est-ce pas, désarmer et à réintégrer.
Est-ce que dans vos actions de sensibilisation, les communautés ont adhéré dans vos actions?
Oh, vous savez, il est très difficile de déclarer qu'une population une communauté a adhéré à une action ou non. C'est sur les faits qu'on s'en rend compte. On sait que les communautés participent. Nous avons des actions avec des leaders communautaires, des leaders religieux, par exemple, qui sont au niveau des États, par exemple. Et évidemment, ceux-ci-là adhèrent. Mais maintenant, eux aussi, ils ont à partager avec, n'est-ce pas, leur base. Et c'est des comportements, en fait. Vous savez, tout ce qui est question de comportement prend un certain temps pour que ça change. Ces enfants, comme Mademoiselle Okara vient de le dire, ont besoin d'être suivis psychologiquement. Ils ont besoin d'être remis en confiance, d'abord. N'est-ce pas? Ils ont besoin d'être encadrés et ils ont surtout besoin qu'on les réoriente sur toutes les activités beaucoup plus utiles et moins nocives pour la société. Voilà ce qu'il faut faire. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine. Il est très facile de rentrer dans certains processus, tels que le processus de la violence, de l'agression. Mais pour en sortir, il faut prendre le temps de réellement travailler avec la personne sur le plan psychologique, sur le plan économique, sur le plan social, pour vraiment voir les résultats au bout. Voilà. C'est un processus qui est en cours. Notre programme n'est pas encore fini. Nous sommes sur le programme. Donc, mais nous sommes confiants, nous sommes encouragés par ce que nous voyons, mais nous savons que c'est un processus vraiment qui peut prendre aussi du temps.
Alors, Monsieur Haruna Samake de la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille, vous dites tout à l'heure que plus de 100 enfants sont enregistrés, des enfants qui sont utilisés dans les groupes armés. Est-ce que ces groupes-là ont été identifiés?
Bon, je vais vous dire que depuis 2013, je vous ai parlé de
2013 à nos jours.
Maintenant, pour arriver à ces résultats, il y a eu un document, un protocole d'accord entre le gouvernement du Mali et les institutions des Nations Unies au Mali. Notamment la force Barkhane, avant c'était Serval, maintenant Barkhane et la MINUSMA et tous les autres. Qui dit que chaque fois que ces forces-là capturent un enfant, dans leurs opérations de patrouille et autres, là, il arrive qu'ils mettent la main sur un certain nombre d'éléments de combattants. Vous allez voir, parmi ces combattants, ces groupes armés, vous allez voir, il y a des enfants. Et le protocole dit que chaque fois que vous capturez des éléments, s'il y a des enfants, automatiquement, le protocole dit que ces enfants, vous devez les remettre à la structure nationale qui est la DNPF. Maintenant, ou encore, si vous êtes dans une région, vous remettez aussi à la direction régionale, qui est la représentation régionale de la direction nationale de l'enfant et de la famille. Donc, ce protocole, dont l'application de ce protocole nous a amené en tout cas à avoir ce résultat. Ce résultat, c'est parce que quelque part, c'est d'abord une volonté du gouvernement d'aller vers ça. Mais avant ce protocole, il y avait au tout début de la crise, il y avait effectivement cette lettre stricte claire que le gouvernement du Mali a adoptée pour faire en sorte que les enfants retirés des groupes armés qui vont être appelés à rejoindre leur famille, il ne faudrait pas que les communautés prennent ces enfants-là comme des terroristes ou bien comme des combattants. Non. Ces enfants doivent être considérés uniquement comme des victimes. Parce que tant que, quand on dit enfant, ça veut dire que vous êtes en développement. C'est-à-dire que vous n'avez pas toute votre faculté en place. Du coup, tous les actes que l'enfant est supposé commettre, effectivement, sont considérés comme étant de la manipulation. Parce que l'enfant ne mesure pas toute la gravité des actes qu'il commet. Il ne fait qu'obéir. Et en obéissant, il devient victime puis de SEP.
Ma question, c'est surtout, est-ce que vous avez les noms de groupes auxquels les enfants ont été retirés?
Nous n'avons pas, quand nous remet ces enfants-là, notre souci, ce n'est pas de savoir quel est le gros nom. On ne communique pas le nom, effectivement, des groupes armés qui avaient enrôlé ces enfants-là. Mais on nous met toujours dit que voilà ces enfants, nous les avons capturés lors de nos opérations militaires. Le plus difficile, c'est pas de savoir ce que. C'est important aussi, mais le plus difficile, c'est de réparer, ou bien c'est de procéder à la prise en charge de ces enfants-là. Parce que ces enfants ont subi des traumatismes. Donc l'urgence, c'est plutôt la prise en charge intégrale de ces enfants-là. D'abord au plan sanitaire, mais surtout au plan psychosocial. Parce que c'est des enfants qui sont traumatisés. Il faut du temps, il faut des services appropriés pour les prendre en charge. Et pendant ce temps, avec d'autres partenaires, nous faisons la recherche familiale pour que l'enfant, lorsqu'il s'y remet effectivement de ce traumatisme-là, on procède à l'identification ou à la recherche des parents. Et après, si les conditions le permettent, l'enfant est réunifié avec sa famille. Mais il arrive souvent que les parents sont connus, on connaît la zone, mais la zone est inaccessible. Alors, si la zone est inaccessible, est-ce qu'on va prendre le risque encore d'amener cet enfant-là qui va encore mille chances de retourner encore dans les rangs des groupes armés? Donc, c'est là tout le problème. C'est pourquoi c'est un dossier sensible qui fait qu'il faut le traiter souvent cas par cas.
D'accord. Alors, mademoiselle Sira Tunkara, de l'Organisation des jeunes africains pour le développement et l'émergence, chargée de la promotion de la jeune fille et de l'enfant. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les enfants sont protégés au Mali?
La question elle est un peu transversale, mais oui, on peut dire que l'État malien fait de son mieux pour protéger les enfants. Mais tout n'est pas fait. Vous savez, l'État seul à elle ne peut pas protéger tous les enfants. Donc, comme Madame l'a dit, il faut sensibiliser la population. Oui, l'État fait de son mieux, mais l'État a beaucoup de choses à faire. Donc, il faut sensibiliser la population pour que la population aussi joue son rôle, qu'elle puisse, respecter les normes de conduite en temps de conflit, que les enfants soient protégés, quel que soit le niveau de conflit, quel que soit, les crises qui puissent exister. Il faut que l'enfant soit protégé.
Madame Babi,
oui.
Vous êtes avec nous? D'accord.
Madame
Maïga Kadiatou Babi, ok, autant pour
oui,
moi.
Merci.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, quelles sont les conséquences de ce conflit sur les enfants?
Les conséquences sont multiples. Mais les conséquences qui me viennent en tête déjà, c'est d'abord le problème psychologique que ce conflit crée chez ces enfants-là. Ces enfants, ils sont séparés de leurs parents, ils sont séparés de leur milieu. Ils n'ont pas droit, leur droit à l'éducation n'est plus respecté comme il se doit. Vous savez, l'école est l'espace de sécurité par excellence normalement d'un enfant. Mais si l'école devient un lieu de risque, d'insécurité pour l'enfant, ça devient un réel problème. N'est-ce pas? Donc, ça, ce sont des conséquences très, très fâcheuses vraiment pour les enfants. En plus de cela, il faut dire qu'avec les différentes sortes d'armes, par exemple, il y a les explosifs, n'est-ce pas, qui existent. Et ces explosifs, malheureusement, se retrouvent souvent sur les champs de jeu des enfants. Et ça peut créer des accidents. Donc, ça aussi, c'est une autre forme d'insécurité que le conflit, n'est-ce pas, amène aux enfants. N'est-ce pas? Donc, vraiment, les conséquences sont multiples. Donc, les enfants, psychologiquement, ne sont pas à l'aise parce qu'ils sentent qu'ils sont dans un environnement vraiment qui n'est pas sécurisé. Même les coups de feu, c'est traumatisant pour un enfant. Les couvre-feux qu'on fait, c'est-à-dire on restreint, n'est-ce pas, le temps, n'est-ce pas, d'amusement des enfants, des adultes aussi. Mais vous savez, dans notre société, généralement, surtout dans certaines zones, les enfants sont habitués le soir au clair de lune, sortir, s'amuser, aller et revenir, tout cela est restreint. Un adulte peut comprendre.
Mais vous imaginez, l'enfant ne comprend pas. Tout ce qu'il sait, c'est qu'on lui interdit de faire ça, on lui interdit de faire ça. Il est tout le temps mis en garde, tout le temps fait attention, ne fait pas ceci, ne va pas là-bas, ne fait pas. Ce n'est pas facile. Donc vraiment, ce sont des conséquences vraiment traumatisantes pour l'enfant. Et ça joue sur le développement psychologique de l'enfant. Voilà. En plus, vraiment, du manque de l'éducation qui est très, très... L'école formelle, je veux dire, l'accès à l'école, vraiment, que ce soit l'école formelle ou non formelle, en tout cas, le non-accès à l'éducation est un sérieux problème, vraiment, et qui a ses conséquences sur même des décennies, parce que c'est vraiment l'avenir même de l'enfant qui est hypothéqué quelque part, voilà, à cause de cette conséquence, à cause de ces conflits-là. Donc, vraiment, les conséquences sont multiples.
Sira Atunkara, madame a parlé tout à l'heure des engins explosifs. Il y a des enfants qui sont victimes des restes des engins explosifs. Alors, quelle assistance faut-il pour ces enfants-là qui sont victimes des restes d'explosifs?
Vous savez, généralement, les enfants victimes de restes d'engins, quelle assistance pour ces enfants? D'abord, il faut généralement, c'est les ONG qui prennent ces enfants en charge parce que sur les lieux de conflit, il y a beaucoup plus les ONG qui sont présents pour les aides humanitaires autres. Donc, il faut juste prendre ces enfants en charge. Il faut les soigner d'abord. Il faut, ils ont déjà besoin d'aide psychologique. Il faut les soigner psychologiquement. Ensuite, il faut les réinsérer. Parce qu'il y a ces enfants, ils sont tellement... Il y en a qui subissent qui perdent des membres. Des bras, même il y en a même qui risquent d'être aveugles, il y en a qui perdent toute leur famille, il y en a juste en s'amusant peut-être sur leur terrain de jeu, ils vont voir, ils savent pas que c'est le reste d'un engin explosif, ils viennent, ils le prennent, en s'amusant avec, tu vas voir, ça va exploser, ça va leur causer des dommages, parfois même à vie, il y en a qui peut-être ils sont toujours en vie, mais ça va les causer soit des dégâts psychologiques, soit des dégâts physiques. Donc il faut juste que ces enfants soient prise en charge par les autorités, que ce soit par le gouvernement ou que ce soit par le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, que ce soit par les ONG ou même que ce soit par la population. Parce que même après les avoir soignés, il faut aussi les intégrer parce qu'il y en a beaucoup qui ont perdu leur famille. Donc il faut maintenant les réintégrer peut-être dans des familles d'accueil, dans des orphelinats. Voilà,
au niveau de la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille, quelles sont les actions qui ont été menées en faveur des enfants victimes des restes d'explosifs?
Bon, d'abord, nous sommes en fait des partenaires. Parce qu'effectivement, ça, c'est une des conséquences, c'est le risque de marcher, d'être... En tout cas,
la direction relève quand même du ministère de la promotion de la femme.
Justement. Donc, par rapport à ces structures de guerre, comme vous savez, il y a aussi des partenaires qui travaillent au niveau des communautés pour sensibiliser et informer, éduquer les gens au comportement, c'est le comportement à adopter dans une zone où il y a effectivement le risque de tomber sur ces structures de guerre-là. Donc, à la matière, nous, en tant que structure nationale, nous produisons ces supports d'éducation. Les supports d'éducation aux risques des mines. C'est-à-dire qu'il y a des ONG qui vont dans les zones affectées et qui mènent des actions d'information et de sensibilisation à travers des boîtes à images, à travers d'autres des affiches, etc. Et ces supports-là, nous les produisons en partenariat avec l'UNICEF. Donc, il y a des actions d'information, de sensibilisation et d'éducation sur les comportements adoptés, les bons comportements et les mauvais comportements. Mais il y a aussi, lorsque ça arrive, c'est ça, la prise en charge. Maintenant, ces enfants-là sont référés ou bien sont conduits dans les structures sanitaires pour leur prise en charge. Mais malheureusement, il y a des cas où les enfants décèdent. Parce qu'il y a des cas où c'est le coup d'un... C'est l'enfant meurt sur le coup parce que le choc étant là. Donc, il y a des actions de prévention et il y a aussi des actions de prise en charge. Et nous, en tant que structure nationale, nous travaillons aussi avec des partenaires qui sont dans ça. Il y a que ce soit des ONG nationales ou bien des ONG internationales qui mènent des actions par rapport à ça. Donc les conséquences, vous l'avez dit, par rapport aux enfants, les conséquences sont nombreuses. Elle a parlé des restes de guerre, mais n'allons pas encore loin. Il y a tous ces enfants qui sont nés dans ces zones à conflit, qui doivent être enregistrés à la naissance, mais qui n'ont pas été enregistrés. Parce que pour être enregistré, il faut accéder aux structures de base, aux structures où centre où l'enfant naît, Après, il y a tout le processus de transcription pour avoir l'acte de naissance. Souvent, il y a des zones où il n'y a pas ces services-là. Alors que l'acte de naissance, c'est le premier droit de l'enfant. C'est cet acte-là qui ouvre la porte aux autres droits. Vous vous appelez comment?
Imirana Marie.
Imirana, c'est par rapport à quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on vous appelle? Parce qu'il y a un acte qui ouvre celle-là. C'est la même chose. Et cet acte-là tire sa source de l'acte de naissance. Donc l'acte de naissance, le fait que les enfants n'ont pas d'acte de naissance, c'est l'une des conséquences de la crise. En plus des explosions de guerre, en plus aussi des cas de viol, des cas de viol, ou bien il y a des gens qui sont blessés. J'ai parlé des enfants associés aux forces, aux groupes armés. Il y a beaucoup de gens, quand ils viennent, ils sont blessés. Il y en a qui sont même amputés. Et quand tu as vu ça, ça vous marque toute la vie. Il y en a qui perdent l'œil. Donc, les conséquences sur les enfants sont énormes. Et c'est pourquoi, franchement, nous devons tous faire, nous mobiliser pour vraiment venir, en tout cas, nous engager pour que vraiment cette crise-là puisse, ou bien mener des actions de prise en charge par rapport à ces enfants-là, ces victimes-là.
Madame Maïga Kadiatou Ababi, pourquoi au Mali, on n'anticipe pas la protection des enfants en zone de conflit, on attend à ce qu'ils soient d'abord affectés par ce conflit?
Je ne poserai pas la question de la sorte. Si, pourtant, on protège. Hein. Mais vous savez, le premier acteur de protection d'un enfant, surtout dans de telles situations, ce sont ses parents. Parce que quand il y a conflit, comme je l'ai dit tout au début, beaucoup de normes changent. Et surtout, malheureusement, quand les autorités n'existent pas dans certains domaines, dans certains endroits, ce qui existe aussi. Donc, la protection de l'enfant revient en premier lieu à ses parents. Et les parents, justement, font tout pour protéger leurs enfants. C'est pour cela que souvent, même quand il y a l'école dans certaines zones, les parents refusent d'envoyer l'enfant parce qu'ils pensent que l'école est un lieu de risque pour l'enfant. Donc, les gens n'attendent pas que la situation arrive. Hein. Les gens essayent d'éviter au mieux la situation. Mais malheureusement, dans une situation qui est devenue pratiquement la norme, il est très difficile d'éviter. C'est ça en réalité. Donc, non, moi, je ne dis pas que les gens attendent que les situations arrivent pour la prise en charge, non. Le travail des ONG, justement, c'est la sensibilisation. La sensibilisation, c'est un travail en amont. C'est justement pour éviter beaucoup de situations. C'est pour vraiment faire comprendre aux gens les risques qui existent. C'est pour faire comprendre aux gens qu'il faut vraiment essayer d'apaiser, n'est-ce pas, la situation, qu'il faut éviter les conflits, que ce soit le conflit armé, que ce soit intracommunautaire, que ce soit toutes sortes de... Voilà. En tout cas, le travail des ONG de tous les jours sur le terrain, c'est justement la prévention en général. Et quand ça ne va pas, maintenant, si on n'arrive pas vraiment, puisqu'on ne peut pas tout prévenir, si la situation arrive maintenant, effectivement, il y a cette prise en charge qui intervient. Et c'est vraiment, malgré vraiment... Les parents, malgré les organisations, que cette situation malheureuse arrive. Voilà. Donc, non, moi, je ne dirais pas que les gens attendent. Les gens protègent leurs enfants. Parce que tout simplement, parce que ce sont leurs enfants, je pense que c'est la chose la plus chère pour les parents. Donc, les parents font tout pour protéger leurs enfants, mais malheureusement, ils le font vraiment selon leurs capacités, selon leurs possibilités aussi. C'est ce qui amène vraiment souvent certaines situations.
D'accord. Alors, Sira Tunkara, vous avez participé à la campagne Stop à la guerre contre les enfants lancée le 16 mai dernier par Save Children. Et que dit cette campagne?
Cette campagne dit tout simplement Stop à la guerre contre les enfants. Vous savez, la fondatrice de Save the Children, Eglantine Jebb, en 1919, a dit ceci. Chaque guerre est une guerre menée contre les enfants. Alors que chaque enfant a besoin de vivre son enfance. Chaque enfant a besoin d'une enfance. Il doit vivre pleinement son enfance. Donc, maintenant, cette campagne, il y a des objectifs. Tout d'abord, il s'agit d'informer et de sensibiliser la population sur les violations, les 6 violations graves que les enfants subissent en temps de conflit. Aussi, de faire en sorte, faire des plaidoyers, d'abord au niveau des gouvernements, au niveau de toutes les parties prenantes, que ce soit les groupes armés, que ce soit les ONG internationales comme nationales, pour que, les conduites, les normes de conduite en temps de conflit soient respectées et que des actions soient menées sur le terrain pour vraiment protéger les enfants et surtout pour faciliter leur établissement.
Alors, Monsieur Samake, où se situent les responsabilités par rapport à cette question de protection des enfants? Les responsabilités se situent où?
Bon, les responsabilités sont partagées. Mais de toutes les façons, on est dans un État, une république avec ses institutions. Et chaque institution a ses missions. Et je parle au nom d'une structure, la DNPF, qui relève du ministère en charge des questions de l'enfant et de la femme. Donc, les questions de protection, effectivement, c'est une responsabilité partagée. Mais je peux parler en mon nom, quand je dis en mon nom, au nom de ma structure, qui a en charge effectivement la protection de l'enfance, où nous avons un document de politique nationale. Parce que quand même, on ne peut pas dire aux gens de faire, non, il faut quand même un document qui cadre les actions à entreprendre en faveur des enfants. Donc ce document de politique, l'État a la responsabilité à travers notre structure d'élaborer ça. On l'a fait en intégrant.
200 enfants sont en dehors de leurs droits selon la déclaration de Save the Children lors du lancement de la campagne Stop à la guerre. Mm-hmm. 200 000 enfants ne bénéficient pas de leurs droits. Mm-hmm. Quelle est la responsabilité de l'État par rapport à cette question?
C'est que l'État est responsable effectivement d'assurer à chaque enfant et à tous les enfants l'ensemble de ses droits. C'est vrai que c'est le truc qui réagit à l'État. Mais comme on l'a dit, avant l'État, il y a aussi les parents d'abord. Le fait d'aller inscrire, enregistrer son enfant à la naissance, ce n'est pas l'État qui va prendre ta main, non. L'État crée des conditions pour que les parents aillent inscrire. L'État crée des services. Maintenant, le reste, là, c'est les parents qui le font. C'est vrai que quand je dis que c'est partagé, c'est un peu ça. La famille a un rôle fondamental à jouer par rapport. La famille, d'abord, c'est le premier environnement protecteur de l'enfant. Après la communauté, le quartier, le village, après toute la communauté malienne. Donc, à travers les institutions. Ceci étant dit, la protection de l'enfance est un sujet transversal. L'enfant, s'il va à l'école, il doit être protégé. L'administration scolaire, l'école, donc l'environnement scolaire, effectivement, doit être rassurant, doit effectivement protéger l'enfant. L'enfant, quand il quitte l'école, il va à la maison, la famille aussi doit le protéger. Il quitte l'école, il va ailleurs, il va il va en mobilité, il doit aussi être protégé. Donc, c'est pour dire que les responsables, mais c'est à l'État de créer des conditions juridiques, administratives et tout ce qui s'ensuit, effectivement, pour que cela soit. Donc, c'est pourquoi je dis que les responsables sont partagés. Et à chacun maintenant, déjà sa protection. Vous êtes parent, vous devez vous assurer, effectivement, assurer la protection de votre enfant d'abord. Quand il sort de l'environnement familial, là il va encore, les responsables de l'abord doivent aussi assurer. L'enfant doit être protégé durant tout son processus, dans tout son mouvement.
D'accord. À chacun de participer, à chacun d'apporter sa participation à la protection de l'enfant. Madame, est-ce qu'aujourd'hui, faut-il un dialogue national pour la protection de l'enfant au Mali?
Oui, un dialogue national est toujours utile. Un dialogue est toujours utile, mais je pense que, vous savez, la question de l'enfance est tellement sensible qu'il est très difficile de trouver des gens qui, en fait, ne voudraient pas protéger les enfants. C'est ça la réalité. Donc, comme mes collègues l'ont dit, le rôle de l'État, le rôle régalien de l'État, c'est la protection des individus et de leurs biens. Ça, c'est en général. Maintenant, les responsabilités, ceci étant dit, sont partagées. Et c'est toujours utile de faire un dialogue pour amener les gens vraiment à considérer de plus près cette question de protection des enfants. Mais moi, je pense que ce serait utile, au lieu de passer son temps à dialoguer, parce que pour moi, vraiment, je serais étonnée de voir quelqu'un devant moi qui me dirait « Non, je ne veux pas protéger un enfant ». Donc, pour moi, ça, c'est un acquis. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller vers les actes vraiment concrets. c'est essayer d'aller vers des actions vraiment qui conforteraient davantage, n'est-ce pas, cette volonté, n'est-ce pas, des uns et des autres de protéger les enfants. Vraiment. Le dialogue, c'est bien, mais pour moi, les actions concrètes, j'irai beaucoup plus vers cela.
Des actions concrètes pour pouvoir protéger les enfants. Est-ce que vous partagez cette idée de dialogue national autour de la problématique de la question de l'enfant?
Tout à fait, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit. Il faut mener des actions concrètes, en fait, parce que c'est vrai de mener des dialogues, mais il faut aussi poser des actes. Parce que les dialogues, généralement, il y a des rencontres qui sont faites, il y a des décisions qui sont prises, qui sont là, mais juste après, elles sont rangées dans un tiroir, elles ne sont pas appliquées. Donc, c'est bien de faire des dialogues, mais il faut aussi mener des actions concrètes en faveur de ces enfants. Il faut que les lois internationales, les lois même ici nationales, soient vraiment appliquées en faveur des enfants. Les lois qui sont là, qui disent « protégeons les enfants, faisons en sorte qu'ils aient droit à la santé, à l'éducation, aux services sociaux de base », qu'ils aient droit à une enfance normale. Ces lois-là doivent être appliquées. Et généralement, les gens ne sont pas au courant de ces lois-là. Il y a des gens, même, ils ne savent même pas qu'il y a des lois qui sont là pour protéger les enfants. Vous voyez un peu? Donc, il faut sensibiliser la population dans ce sens. Les parties prenantes...
Donc, ces acteurs ne jouent pas pleinement leur mission.
Voilà, c'est tout ça, c'est ça, en fait. Les gens ne jouent pas pleinement leur rôle, en fait. Donc, il faudrait que les gens puissent jouer leur rôle, que les enfants soient protégés, que les lois, les normes, les standards, tout ce qui est là pour protéger les enfants soient appliqués, pour que les enfants puissent vraiment jouir de leur enfance.
Quand on dit que les acteurs ne jouent pas pleinement leur rôle dans la mission de protection de l'enfant, qu'est-ce qui est à la base de ça?
Bon. Quand on dit que les acteurs ne jouent pas leur rôle, mais je voulais répondre par rapport vous parlez de débat national par rapport au... Les gens nous disent, bon, un débat, c'est sûr, bon. Mais franchement, souvent on parle trop, mais on travaille moins. Quand je dis on travaille moins, la protection de l'enfant a besoin d'actes concrets, de poser des actes concrets.
Quels sont ces actes-là?
Ces actes, on prend un enfant qui est violenté. Quand on dit qu'il est violenté, bon, je prends un exemple. Un enfant... qui est victime de violences sexuelles. Ça, c'est un cas. Donc, un enfant violé, il a besoin d'être pris en charge sur tous les plans. Au plan, d'abord, au plan médical, parce que sur le plan sanitaire, au plan psychologique, il faut la prise en charge. Il faut des stress pour réparer le choc subi par l'esprit. Mais aussi, quand même, ses droits ont été, ou bien un de ses droits a été violé. Donc, il faut une réponse juridique ou judiciaire. Autrement dit, il faut que cet enfant soit mis, c'est-à-dire que soit réparé au plan juridique. Si, en le violant, on l'aura atteint à ses droits. Donc, il faut que la justice, effectivement, fasse son rôle pour mettre cet enfant dans ses droits. Donc, c'est la protection, la protection de l'enfant, c'est un domaine transversal. C'est pas un seul secteur qui peut... Non. L'enfant a besoin d'être...
Est-ce que dans ce cas précis, la justice joue son rôle?
Oui, on a dit au Mali, on a tellement de tests, mais les tests ne sont pas appliqués. Tu le sais.
Et à qui la faute?
Tout le monde le sait.
À qui la faute?
À tout le monde.
Mais l'État a sa part de responsabilité.
Même toi, tu as ta part. Je vais te donner un exemple.
L'autre part, c'est de...
Quand on va dire qu'on va appliquer... Toi, tu as un parent. Tu as un parent qui a comme un acte, qui est irrépréhensible. On entame des procédures judiciaires. Vous êtes tenté d'intervenir auprès de la justice pour faire telle affaire, pour faire en sorte que cet enfant, on ne puisse pas le faire subir tout le coup de la justice. C'est un peu ça le problème. Souvent, quand ça nous arrange, on dit qu'il faut appliquer la loi. Quand ça nous arrange, non, il faut faire la médiation. Non. Un État ne peut pas marcher sur ces deux-là. Non. Soit on opte pour appliquer la loi et on s'engage en toutes les responsabilités et on dégage les moyens qu'il le faut. Soit on met la justice de côté et on fait ce qu'on veut. Et on s'attend au pire. D'accord. C'est ça le problème au Mali. Malheureusement, la protection de l'enfance est subie ce truc-là. Un enfant déjà qu'on a violé, le cas de viol qui s'est produit là, par ces ou six personnes-là. Vous allez voir déjà. Ça, imaginez-vous, est-ce que ça c'est un passant dans un pays, que j'ai dit, musulman ou bien protecteur de l'enfant? Non. serait dans d'autres pays là, ces gens-là allaient en tout cas entrer toutes les constances.
Madame Maïga Kadiatou Babi, est-ce que aujourd'hui, que faut-il réellement au-delà des dénonciations, au-delà de. Est-ce qu'il faut vraiment une sanction pour ceux qui utilisent, ceux qui utilisent les enfants?
Il y a la musique qui est trop forte là. Votre générique là.
D'accord, le temps est déjà imparti. Merci de nous avoir suivis, chers auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de la protection de l'enfant et nous avons trois invités. Ils sont Sira Atunkara de l'Organisation de jeunes africains pour le développement et l'émergence, chargée de la promotion de la jeune fille et de l'enfant. Monsieur Haruna Samake de la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille. Madame Maïga Babi, Khadija Babi de l'APROFI, de l'Association pour la promotion de la jeune fille déscolarisée. Je suis Mrana Kilo Maïga, à la régie d'antenne Salim Djouara et à la mise en onde Mamadou Ouattara. La coordination était assurée par Mohamed Touré. À la prochaine fois.
Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry,
Haloud Mandou.
Chienne Berry,
Sikikafoba. Le Grand Dialogue.